Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast de notre série portant sur les enjeux écologiques des prochaines élections européennes. Cette série fera intervenir plusieurs personnalités qui ont contribué au dossier que La Fabrique écologique vient de publier à ce sujet. Ce dossier est composé d'une trentaine de fiches sur les différents thèmes de la transition écologique et est librement accessible sur le site de La Fabrique écologique. Dans cet épisode, je reçois Denis Pingot, qui est vice-président de La Fabrique écologique, pour discuter de l'écologie face à la montée du populisme. Denis Pingot, bonjour.
Bonjour.
Je voulais d'abord vous questionner sur... Donc on voit que la menace populiste est de plus en plus prégnante et s'attaque de plus en plus au climat. Pourquoi est-ce que cette montée populiste s'attaque particulièrement au climat et quelles sont les conséquences sur le pacte vert ?
Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, la montée générale du populisme en Europe, qui se traduit, on le voit dans différents pays, par la progression électorale ou en intention de vote de force qui se situe plutôt à l'extrême droite de l'échiquier politique et qu'on qualifie par commodité de populiste. Cette montée, elle est observable depuis un certain temps et sa cause principale n'est pas seulement la question du climat, elle est liée à beaucoup de facteurs, dont le sentiment de beaucoup de classes populaires dans les différents pays européens, que les différents gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, n'ont pas suffisamment été efficaces ou pris en compte leur situation, et que donc il y a une sorte de déficit à la fois social et démocratique, qui justifie pour les populistes qui se servent de ce sentiment un peu de défiance vis-à-vis de la politique pour accroître leur force et gagner des voix. Donc il y a un mouvement général de montée du populisme qui, en plus, se nourrit, et c'est le deuxième point, du fait que pour ces classes laborieuses qui ont le sentiment que les politiques ne s'occupent pas suffisamment d'elles, il y a évidemment, le sentiment qu'en plus, la France étant aujourd'hui dans l'Union européenne est un machin un peu lointain de politiciens et de technocrates qui édictent des normes, des lois, etc., sans tenir compte réellement de la situation concrète des gens. Et donc, parmi ces lois, ces décrets, ces directives, la question des normes environnementales est effectivement importante, puisque c'est un des grands enjeux du mandat de l'actuelle présidente de la Commission européenne. Et tout ça fait que les populistes peuvent nourrir un discours qui est un discours anti-Europe au sens anti-Commission européenne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle en ferait beaucoup trop sur la transition climatique et donc sur l'établissement de lois, de normes qui auraient un effet très néfaste pour la vie quotidienne des gens.
C'est justement un des arguments de l'extrême droite. Là, on l'a vu dans la crise agricole qui a tenté d'exploiter la colère des agriculteurs en s'attaquant aux normes environnementales européennes en particulier. Pourquoi les normes cristallisent la colère ? Est-ce qu'elles sont trop nombreuses, trop contraignantes ?
Alors, de notre point de vue, ces normes ne sont pas nécessairement trop nombreuses ou trop contraignantes. Elles existent parce que l'Europe s'est engagée avec le Green Deal sur une voie qui est quand même la voie même timide d'une transition écologique pour faire face aux défis climatiques et que ça suppose effectivement des changements notables dans les modes de production, notamment dans le mode de production agricole. Et autour de ça, s'est cristallisé notamment des positions très radicales de la part d'un certain nombre de syndicats agricoles sur des normes concernant le mode de production actuel dominant de l'agriculture, c'est-à-dire un mode de production extensif, normes qui touchent aux pesticides, aux parcelles, aux haies, à toute une série de sujets qui sont par ailleurs contrôlés par une autorité qui est ce qu'on appelle la police environnementale qui fait des contrôles dans les exploitations pour vérifier que ces normes sont bien appliquées. Bon, tout ça, évidemment, génère un agacement, voire une hostilité franche de la part des agriculteurs, d'autant que l'établissement de ces normes et de ces politiques environnementales ne s'accompagne pas, et c'est là le point le plus faible de la politique européenne dont jouent évidemment les populistes, c'est que ces normes ne s'accompagnent pas de mesures sociales, d'aide à la transition, et du fait que quand on interdit quelque chose ou qu'on limite l'usage de quelque chose, il est important en même temps de s'intéresser aux conséquences pour le modèle économique de l'exploitant agricole et donc sur la manière dont on peut l'aider à changer de modèle, à évoluer et donc par exemple à passer d'un système très classique de production agricole aujourd'hui à un système moins classique qui est tout ce qui tourne autour de l'agriculture bio. Faute d'avoir fait ça, il y a des normes et il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'aide. Donc en gros, les agriculteurs considèrent qu'ils sont victimes en quelque sorte d'une technocratie lointaine à coloration environnementale et qu'on ne s'intéresse pas, ce qui est par ailleurs vrai, à leur situation, qui est une situation économiquement difficile. Mais tout ça devrait être régulé par un système qui soit à la fois un système de normes, mais en même temps un système d'aide à la transition vers un autre modèle de développement agricole.
Je voulais vous demander ce qui nourrit le climato-scepticisme. Est-ce que ce manque d'accompagnement social, justement, peut en faire partie ?
Alors, ce qui nourrit le climato-scepticisme, c'est d'une part, la transition écologique, ça doit être l'établissement de normes successives qui viennent enquiquiner la vie quotidienne de tout le monde, c'est pas très porteur d'être aujourd'hui les héros de l'écologie si ça doit se traduire par un sentiment que ça se résume en quelque sorte à des interdictions, des empêchements ou des enquiquinements. Donc le climato-scepticisme se nourrit du fait qu'on a le sentiment qu'une politique écologique ou environnementale se résume à de la technocratie, de la paperasserie ou des normes multiples qui entrave en gros la liberté de chacun. Donc oui, ça joue. Par ailleurs, on est dans un contexte où le climato-scepticisme se nourrit aussi d'un sentiment que, quelque part, c'est tellement vaste et grave ce sujet qu'on n'y peut plus grand-chose. C'est-à-dire que, au fond, tous les systèmes d'alerte qui ont très bien fonctionné, qui font qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus assez général sur le fait qu'on est sur la voie du réchauffement climatique. Il y a en même temps une peur des conséquences que ça peut avoir en termes de changement radical de politique économique et de développement général. Et donc, plutôt que de s'interroger sur les voies les meilleures pour organiser cette transition, il y a une tentation de fermer les yeux, de mettre la tête dans le sable et de se dire qu'après tout, comme c'est dans 30 ans, ou à l'horizon de la fin du siècle, ça nous concerne moins, et donc après tout, est-ce que c'est si grave et est-ce que c'est si nécessaire de se mobiliser contre ça et en tout cas de soutenir des politiques qui en réalité sont même des politiques qui viennent ennuyer ou agacer ou mettre en cause la vie quotidienne des gens.
Est-ce que certaines mesures européennes ont connu des revers ?
Alors, la montée des forces populistes et la menace que ça fait peser a une sorte de conséquence en domino. C'est-à-dire que cette montée en puissance fait que les droites européennes essayent d'éviter d'être ponctionnées dans leur électorat par l'extrême droite et donc ont tendance à courir après ce que racontent les populistes. Ce que proposent les populistes, et donc constitue aujourd'hui un frein majeur à l'évolution des politiques de transition au niveau européen. Et donc, alors qu'il y avait au début du mandat d'Ursula von der Leyen en 2019 un relatif consensus sur le Green Deal et sur un certain nombre de mesures à prendre en termes de transition, ce consensus s'est un peu rompu du fait de la pression sur le flanc droit de la droite européenne qui s'est un peu détaché ou qui a freiné sur un certain nombre de mesures. On l'a vu sur toutes les affaires concernant les pesticides, par exemple, où il y a eu des reculs ou en tout cas des procrastinations manifestes au niveau européen. Et sur un certain nombre d'autres textes, notamment dans la renaturation, le texte européen sur le fait de procéder à des mesures favorisant le retour de la nature, toutes ces questions ont été, entre guillemets, brouillées par cette montée du populisme et ont abouti à des reculs, des textes non votés, des textes sur lesquels il y a eu abstention, et donc globalement à un sentiment qu'il y avait une sorte de stop ou de pause dans la volonté de l'Europe d'avancer sur la voie de la transition.
Vous avez évoqué le fait, l'alliance qui existe entre la droite plus traditionnelle et l'extrême droite sur la mise en pause du Green Deal notamment. Est-ce qu'on peut dire que l'extrême droite impose son agenda ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la montée en puissance des populistes dans les différents pays d'Europe fait que les droites européennes, qui jusqu'à présent fonctionnaient dans une sorte d'alliance avec les sociodémocrates au niveau européen et une forme de consensus sur le Green Deal, ces droites européennes se sentent menacées dans leur existence et leur base électorale et ont donc tendance aujourd'hui à céder en quelque sorte, on pourrait dire, aux sirènes des populistes, notamment sur les questions qui touchent au climat et à l'écologie. Et vous avez parfaitement raison, on peut dire que l'extrême droite, de ce point de vue, aujourd'hui, impose à la fois ses idées et donc derrière son agenda, qui se traduit par la pause observée sur un certain nombre de textes au niveau européen, que ce soit sur les pesticides, sur la renaturation ou sur d'autres textes, et aussi les discours plus généraux qu'on entend un peu partout en Europe et qui résonnent par exemple en France avec le président Emmanuel Macron qui parle effectivement, après la mobilisation des agriculteurs, de nécessaire pause dans le Green Deal. Donc il y a une espèce de consensus qui est en train de se former à la fois au niveau des droites européennes, mais pas seulement, au niveau du gouvernement européen. Et ce consensus est imposé par l'activisme idéologique sur ces questions des populistes et de l'extrême droite.
Vous dites qu'un sursaut est indispensable pour une révolution écologique heureuse. C'était votre formule.
Je pense que la meilleure manière de lutter contre ça, bien sûr, c'est d'argumenter de manière rationnelle. C'est de dénoncer le climato-scepticisme sur la base de faits qui sont avérés et qui ne sont pas discutables. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi de s'adresser à l'opinion et de pointer le problème que pose aujourd'hui le sentiment de l'opinion. Pourquoi l'opinion est aussi aujourd'hui réticente à tout ça ? Parce que sans doute, comme vous l'avez évoqué, l'écologie est synonyme de tracasserie ou de changement contraint du mode de vie. Et donc l'enjeu pour les écologistes et pour l'Europe, c'est d'arriver à proposer une voie de transition que j'appellerais une voie de transition heureuse, c'est-à-dire qui, en assortissant toute mesure vertueuse sur le plan environnemental, des aides nécessaires ou des accompagnements nécessaires pour que ça ne provoque pas un déficit au niveau des conditions de vie, du mode de vie ou même du niveau de vie, c'est la transition heureuse, c'est-à-dire une transition qui soit capable de démontrer à la grande majorité des gens qu'en avançant sur la voie de cette transition, en fait, ils vivront mieux et plus en harmonie avec l'enjeu fondamental qui est quand même de préserver la Terre, la biodiversité et l'avenir de l'humanité.
Et à quoi ça ressemblerait cette révolution écologique heureuse ?
Ça ressemble à un paquet de mesures et une certaine vision partagée dans la société qui est que pour sauver l'humanité d'un risque de désastre planétaire lié au changement des conditions climatiques, il est important tous ensemble de faire en sorte que ce risque, cette catastrophe ne se produise pas. Et qu'en même temps, en luttant contre ce risque de catastrophe, on soit à même d'imaginer une forme de vie ensemble, de vie sociétale, de vie démocratique, qui soit peut-être à la fois plus respectueuse de ce qui nous entoure, la terre et la nature, et en même temps plus conviviale et plus sociale entre tous les humains.
Ça fait envie, effectivement. Merci Denis Pingot.
Merci à vous.